RMC Running, Roxane Lacusca.
Salut à tous, dans 4 semaines tout pile, ce sera le grand départ de l'UTMB. Et vous le savez, depuis plusieurs semaines, RMC Running accompagne 4 athlètes amateurs qui participeront à ces courses mythiques, accompagnés par nos partenaires que vous connaissez maintenant, Run Motion Coach et Oka. Vacances oblige, on a laissé Johan Durand et Benoît Boutron se reposer, on les embrasse d'ailleurs. Mais Claire, Damien, Romain et Laurent sont bien là, eux, et oui, pas de repos quand on prépare l'UTMB. On prendra des nouvelles de toute la team. Et puis Romain Adam, notre coach Run Motion Coach, est bien là aussi. Salut Romain.
Salut à tous.
Et aujourd'hui, on évoquera avec toi les séances de côte, évidemment primordiales quand on prépare un trail. Allez, c'est parti pour ce 4e épisode de l'UTMB. Salut tout le monde, ravi de rejoindre cette team pour l'aventure en l'absence de Benoît. Bon, on va respecter les traditions quand même. Comment allez-vous et comment se sont passées les 2 semaines d'entraînement? Je vais commencer avec toi Romain qui est à côté de moi. Comment ça va et comment se sont passées ces 2 dernières semaines?
Eh bien écoute, bonjour déjà. Ça va très bien. Les 2 semaines étaient un petit peu particulières les deux semaines passées puisque j'avais l'Ultra 01 en fin de semaine il y a 10 jours. Donc ça s'est très bien passé malgré le fait qu'il ait été un petit peu écourté de 20 km. Et la semaine dernière, donc juste après l'Ultra 01, j'ai fait une semaine un peu particulière pour moi puisque j'ai été au travail en courant et revenu du travail en courant tous les jours. Donc il n'y avait pas de séance particulière mais donc beaucoup de kilomètres finalement. Ouais. Sur la semaine, peu d'intensité, peu de dénivelé, mais voilà, pas mal de volume, donc sinon tout va très bien.
Côté fatigue, plaisir, difficulté, on se situe où?
Alors difficulté, ça a été un peu compliqué de se motiver pour aller au travail tous les jours
en courant surtout
le matin. Donc on va dire un petit 9 sur 10. Le plaisir, il n'y en avait pas beaucoup, pour être très honnête, sur cette semaine-là, donc 5-6. Et je ne sais plus ce que c'était le dernier, plaisir, difficulté et fatigue. Et fatigue, étonnamment, ça va pas mal. Donc pas grand-chose, on va dire 4.
Ok, voilà. On va accueillir Claire également. Comment tu te situes, toi, niveau fatigue, plaisir, difficulté, sur les 2 dernières semaines? Comment ça s'est passé?
Eh bien, écoute, très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais plein de choses en 2 semaines.
C'est difficile de se souvenir de tout.
Le plaisir, franchement, je prends toujours autant de plaisir. Alors, je vais peut-être mettre 9 parce que je me suis fait une sortie de 4h30, je crois, avec 2 heures de pluie, donc c'était moins sympa que
4h50
sous le soleil.
34,54
mais km. Ouais. Mais sinon, plaisir super. Après, difficulté. Je dirais que là, ma dernière sortie, ouais, j'ai fait plus de dénivelé et j'étais dans le sud, alors il faisait assez chaud. Donc, je dirais 7,5, 8, quoi. C'était assez dur à la fin. Et surtout les descentes. Alors, j'ai pensé au coach parce que dès que j'étais en descente, j'avais envie d'être en montée.
Ça, voilà, c'est la difficulté, c'est vrai.
Ouais, je crois que je préfère quand même les montées. Et sinon, et après, c'était quoi le dernier?
Fatigue, plaisir,
fatigue.
Et difficulté.
Ah oui, fatigue. Et eh ben fatigue, non ça va, je suis bien, je suis pas trop fatiguée, donc je dirais 4 quoi.
Très bien, à moins d'un mois de l'échéance, tout va bien quoi.
Ouais, tout va bien, super.
Damien, toi on le rappelle, tu vas participer à ton premier trail, tu vas faire la MCC, donc 40 km. Comment ça s'est passé ces dernières semaines? On savait que tu devais aller dans les montagnes, donc qu'est-ce que tu as pu
faire?
Dans les
Vosges, oui. Oui, exactement. Donc moi, ça fait maintenant 10 jours que je suis arrivé en montagne, donc dans les Vosges. La semaine dernière, donc la première semaine, j'ai pu commencer à faire un peu plus de dénivelé, donc c'était assez chouette. J'ai aussi pu tester mon matériel parce que c'était la première fois que je courais avec des bâtons, donc ça aussi c'était plein de bonnes expériences. Et hier j'ai fait le trail de Courchevel, le 22 km. Qui était une qui faisait même 23 km avec 1600 de D+, assez difficile mais plutôt content de ma gestion de course. Voilà, j'avais vu avec Romain, il m'a dit écoute, voilà, fais-le à plutôt 80% que à fond, histoire de pas trop te fatiguer. Donc assez content. Et au niveau des notes, donc je dirais plaisir 8 sur 10, ça a quand même été dur hier, donc c'est pas un 10 sur 10, mais bon, je m'éclate quand même dans cette prépa. Fatigue, bizarrement, ça commence à aller de mieux en mieux. Ça va très bien, je dirais 6 à 7 à peine. Même avec la course d'hier, je me sens encore très bien aujourd'hui. Et difficulté, toujours assez élevée hein, pour moi. Je dirais 8 sur 10.
Surtout quand tu découvres comme ça le dénivelé que tu
Ouais.
connaissais peut-être un petit peu moins. C'est vrai, Romain, que c'est important de ne pas se mettre à 100% à un mois de l'échéance, quoi. Quand on découvre en plus les montagnes.
En fait, c'est vrai qu'en échangeant avec Damien, je lui ai proposé de courir un petit peu en dedans, puisqu'en fait, cette course-là, elle présente un ratio de dénivelé positif qui est quand même assez énorme. Tu disais ouais, 1600 pour un peu plus de 20 km. Déjà, quand on est un ratio de 20 km pour 1000 mètres de dénivelé positif, en général, c'est déjà des bonnes courses. Et donc là, je lui ai dit de faire un peu attention parce que le ratio était vraiment très élevé, en plus des assez longues descentes. Donc je pense que c'était pour toi une bonne option là de courir un petit peu en dedans et de pouvoir enchaîner encore plusieurs semaines d'entraînement correctement avant l'UTMB.
On le voit sur ton Strava, Damien, tu as pu tester un petit peu ton matériel, tu le disais, notamment la frontale, c'était une première ou pas?
Oui, la frontale, ouais, c'était une première hors entraînement. Bon, après, le soleil s'est assez vite levé,
Ouais.
donc ça a été. Mais ouais, c'était une bonne expérience, assez difficile, les paysages magnifiques, mais quand même les 4 derniers kilomètres un peu dans le dur.
T'es
Il
parti
faut
avec les
être
bâtons?
honnête. Ouais,
Et alors,
avec les
comment ça s'est
bâtons.
passé?
En montée, ça m'a été assez utile et j'ai trouvé ça chouette. Par contre, en descente, par rapport à l'entraînement, bah, en fait, avec le peloton, avec la vitesse des gens, en fait, tout le monde était obligé un peu de se suivre. C'était des tout petits chemins. Bah, en fait, on s'en sert pas trop, donc je les ai gardés à la main et je m'en suis servi vraiment à la fin pour limiter les douleurs aux cuisses dans les dernières descentes. Mais ouais, là aussi, c'était plein d'apprentissage.
Ouais, c'est vrai que c'est ce que tu disais, Romain, dans le précédent épisode, quand on a évoqué les descentes. C'est là où c'est peut-être un peu plus compliqué d'utiliser les bâtons quand on n'a pas l'habitude.
Oui, effectivement, encore plus quand c'est des descentes qui sont vraiment techniques. Il faut plutôt s'en servir en fait comme d'un appui et idéalement de réduire un petit peu les chocs en descente. Mais c'est vrai que c'est moins utile quand même qu'en montée et l'apport des bâtons est moins spectaculaire dans les descentes.
Ouais.
Là, j'ai pu le voir, je suis en plein tour du Mont Blanc pour une reco UTMB avec un ami. Et c'est vrai que ce qui nous fait mal au bout d'un moment, c'est quand même beaucoup plus les descentes. C'est là où tu as des petites douleurs aux genoux, éventuellement aux chevilles ou à d'autres endroits. Et c'est vrai que les bâtons peuvent un tout petit peu soulager, même si ça fait pas des miracles.
On va continuer le tour de table pour savoir comment ça va. On va accueillir Laurent. Salut Laurent.
Salut Roxana, salut à
Alors toi,
tous.
tu prépares l'UTMB. Pour rappel, c'est 171 km, 10 000 de D+. Comment se sont passées les 2 dernières semaines? Je crois que tu es un des seuls à pas être allé en montagne pour l'instant.
Oui, exactement. J'ai une organisation de vacances familiales notamment qui me contraint à m'adapter. Et donc là, ces 2 dernières semaines, j'ai encore plus vu qu'il fallait que j'adapte mes sorties pour gérer bah, les horaires et les organisations familiales, ce qui n'est pas évident. Donc j'ai concentré en fait les sorties, notamment la semaine dernière. Je n'ai fait que 2 sorties, mais du coup, j'ai essayé de faire des choses avec pas mal de volume. Une sortie de 25 km, du coup, mais calme, j'allais dire tranquille. Et une autre sortie où je suis allé chercher un peu de dénivelé. Donc j'ai réussi à passer un peu plus de 1000 mètres de dénivelé sur une première partie sur 25 km, je crois, à peu près. Et puis ensuite finir en allongeant un peu sur de l'endurance, donc pour arriver à un peu plus de 4 heures de sortie et je crois un peu plus de 35 km. Donc j'étais assez content, des bonnes sensations, moins de fatigue que j'avais pu accumuler un petit peu avant. Donc là, ça va beaucoup mieux. Et puis, bah, j'en avais pas parlé, mais je suis aussi, je pense que c'est important, sur des formats comme ça d'ultra, surtout avec mon niveau, je vais passer 2 nuits dehors. Une prépa mentale également, avec une
Ah oui,
préparatrice
intéressant
mentale.
ça.
Et donc, ça me fait un couple physique plus mental que je trouve intéressant, puisque je gagne aussi en sérénité, je le sens de semaine en semaine, malgré bah, en effet ce volume d'entraînement qui reste plutôt faible, je pense, si on prend un défi comme l'UTMB, où il faudrait peut-être accumuler beaucoup plus de kilomètres. Donc voilà, j'essaie d'équilibrer tout ça dans l'organisation, encore une fois, familiale avec les enfants aussi. Et donc voilà, donc plaisir, franchement, je prends beaucoup de plaisir malgré peut-être pas énormément de sorties, mais donc je dirais 7-8 sur 10. La fatigue, là, je me sens mieux qu'il y a quelques semaines, beaucoup moins fatigué, donc ouais, 4, je dirais. Et la difficulté, peut-être 5-6, mais voilà, je reste assez serein.
Et alors, ça consiste en quoi cette prépa mentale? C'est hyper intéressant d'aborder ce sujet. C'est vrai que c'est hyper important sur des courses comme ça, en plus qui sont très longues. Qu'est-ce que ça t'apporte et en quoi ça
Ouais.
consiste?
Eh bien, bah alors c'est beaucoup de réflexion et d'échanges en fait. Donc avec cette préparatrice mentale, on discute beaucoup. On part généralement dans une prépa mentale de ton objectif et du pourquoi tu veux te lancer sur un tel défi, puisque bah, on dit souvent que lorsque tu vas être, puisque sur des ultras comme ça, quel que soit le format ou des trails, il y a forcément des moments de down et des moments où on est moins bien. Et si dans ces moments de moins bien, bah, tu ne sais pas exactement pourquoi tu t'es lancé dedans, qu'est-ce que tu vas chercher au fond de toi, bah, c'est beaucoup plus difficile finalement de se maintenir dans ta course, dans ta motivation. Donc on va vraiment chercher au fond de soi le pourquoi de ce défi. Et ensuite, c'est des piliers qu'on explore, des piliers assez concrets, hein, de la respiration par exemple. On fait des exercices donc de visualisation. D'ancrage, donc c'est-à-dire qu'on va associer par exemple des souvenirs de course ou des souvenirs personnels très positifs et très forts en émotion avec un geste par exemple. Et en fait, ce geste-là, on va pouvoir le refaire pendant la course au moment où on en aura besoin. Et le cerveau va associer ce geste-là justement aux émotions qu'on a pu ressentir par le passé et donc nous aider à continuer à avancer. Voilà, c'est plein de petits outils finalement. C'est souvent que la prépa mentale, c'est une boîte à outils. Et on nous apprend à se servir des différents outils pour que pendant la course, tu puisses te raccrocher et te servir de ton cerveau. On sait que le cerveau est un facteur, une très belle machine, mais un facteur limitant pendant des trails ou des ultra-trails. Et que bien souvent, on arrive à une limite mentale plus rapide que les limites physiques qui peuvent être parfois insoupçonnées. Et donc, on nous apprend à finalement reprendre le contrôle sur ton cerveau et sur ton mental pour continuer à prendre du plaisir. Il y a aussi la notion de plaisir qui est hyper
Évidemment.
importante pour garder toujours en tête qu'on fait ça avant tout pour le plaisir et que, étant amateur, même si on va chercher chacun notre propre perf, il faut
Oui, le
savoir
but est
garder
avant
du
tout
plaisir
de
dans notre
se
pratique.
faire plaisir. C'est sûr. Romain, à côté de moi, je te vois hocher la tête. Toi
Exactement.
qui as déjà fait l'UTMB, c'est quelque chose qui te parle, tout ce que nous dit Laurent, la prépa mentale, comment aborder des courses comme ça qui vont chercher au fond de nos tripes, quoi.
En théorie, oui. En pratique, moins. Je l'avais mis en place justement en 2021 pour l'UTMB. Moi, c'était plutôt sur le fait de rester positif quand ça va pas bien et quand on n'a plus envie de continuer. Donc un petit peu ce que disait Laurent. Mais c'est vrai que je l'ai fait une fois pour l'UTMB et depuis, bah, j'ai pas pris le temps de le faire parce que je pense que effectivement, je pense que c'est important. Après, dans quelle mesure le mental peut prendre le relais du physique, ça, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est un point hyper important et je pense qu'il est pas mal négligé. Enfin, moi le premier, surtout sur des épreuves aussi longues.
C'est vrai qu'on se prépare beaucoup physiquement. Romain Adam, je me tourne vers toi. On se prépare beaucoup physiquement pour les trails, les ultra-trails notamment, qui sont très longs, qui vont puiser dans notre énergie. Mais il ne faut pas négliger ce côté mental aussi.
Oui, c'est clair. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas faire juste de la prépa mentale et pas de prépa physique ou vice-versa. Je pense que c'est intéressant. Je pense que Laurent l'a très très bien expliqué. Peut-être que je peux avoir comme complément, c'est aussi ce qui est intéressant dans une course comme ben, une UTMB ou n'importe quelle course, en fait, c'est de découper les distances pendant l'événement. C'est de dire, bah, tiens, par exemple, sur l'UTMB, donc 170 km, tu vas dire, bah, tiens, je fais déjà la première partie de jour qui est jusqu'à Saint-Gervais pour la plupart des coureurs. Puis après, tu bascules de nuit où là, tu bascules dans une dimension qui est un petit peu particulière parce que tu dois mettre la frontale. Tu quittes un peu la civilisation pendant un bon moment. Et puis après, la course, elle redémarre vraiment à partir de Courmayeur, au bout de 80 km. Et donc le fait de connaître un petit peu ces difficultés, de découper la distance dans sa tête, c'est intéressant parce qu'on est globalement moins, on a globalement moins peur, on est moins pris dans un vertige en se disant, tiens, il me reste 170 km. Si tu penses comme ça, potentiellement, ça peut être difficile. Et donc c'est des petits hacks que tu peux avoir au niveau de ton cerveau et même quand ça va pas bien, de quand même te rassurer et de te dire bah, je vais jusqu'à la distance suivante, jusqu'au prochain ravito ou au prochain point que tu détermines dans ta tête. Et puis globalement le fait de découper ça te permet
Oui, ça aide
de franchir les difficultés les unes après les autres.
ouais. À rester concentré sur chaque chose à la fois, on va dire. Bon, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes partis à la montagne ces dernières semaines. Ça aide l'été et les vacances pour pouvoir un peu s'aérer. Claire, notamment, toi, sur les derniers épisodes, on a pas mal parlé de la recherche de dénivelé en allant dans le sud. Tu as enfin pu en trouver. Fini le parc de Saint-Cloud et
Ouais,
on
là c'est
trouve un peu
bon.
de dénivelé.
Je suis servie là.
Est-ce que ça
Ouais,
t'a
non,
aidé
c'est
justement dans cette
parfait. Ouais,
préparation?
bon terrain. Ah oui, beaucoup. Là, ma dernière sortie, Oui, j'ai eu la chance d'avoir un circuit. Alors, je ne me suis pas aventurée dans des chemins que je ne connaissais pas, mais voilà, j'avais deux boucles dont les montées sont quand même longues et font bien, oui, je suis bien 20-30 minutes non-stop en montée. Donc, c'est quand même mieux pour l'entraînement que ce que j'ai au parc de Saint-Cloud qui dure 5-10 minutes. Donc là, je suis vraiment dans la montée pure pendant une demi-heure. Donc, c'est très bien. Et inversement aussi en descente. C'est plus réaliste pour moi parce que du coup, ouais. j'ai le temps d'avoir un peu mal.
Est-ce que vous avez enfin voilà. pu faire vos week-ends de choc bien. Claire, je vais commencer par toi. Est-ce que tu as pu faire ton week-end choc tant attendu?
Bah là, je l'ai fait hein, parce que bon, je sais pas pourquoi Strava m'a enlevé 10 minutes, mais en réalité, j'ai fait 5 heures samedi. Donc, je pense que ça s'arrête quand je marche un peu. Non, donc, j'ai fait 5 heures samedi et 1h10 dimanche. Donc, c'est plutôt.
Donc, comment tu as découpé tes sorties du coup?
J'ai vraiment fait 5 heures samedi non-stop avec. Voilà, où j'avais deux boucles que je faisais qui m'ont été le fil conducteur, je dirais, de cette sortie. Mais c'est passé assez vite, en fait, au final. Et après, j'avais dimanche 1h, j'ai fait 1h10, mais c'était sur de l'endurance fondamentale. Donc, j'étais le long de la plage à Cannes. Il y a eu 4 mètres de
sympa,
dénivelé.
Le parcours.
Donc moins c'était dénivelé, bien. Mais c'était joli. Plus cool. Donc, ouais, très bien. C'était parfait.
Est-ce que tu as... On parlait de tester le matos. Est-ce que tu as enfin reçu tes nouveaux bâtons ou pas encore?
Non, malheureusement, je ne les ai pas encore reçus. Je n'ai pas encore reçu mon emboîture, en fait, le dernier modèle. Je suis quand même assez réaliste sur le fait que je pense que je ferai l'OCC sans bâton.
D'accord.
Parce que ça va être trop short en timing pour m'habituer et m'entraîner, je pense. Ça va être
pour les
short.
Tester comme il faut avant le début de la course.
Ouais, ce sera pour une prochaine course, je pense.
Damien, toi...
Je me prépare mentalement quand même
à
faire ces montées.
À le faire quand même sans. Ouais. Damien, toi, tu as pu faire aussi ton week-end choc, on le disait juste avant, tu étais dans les Vosges. Comment ça s'est passé alors ce week-end attendu?
J'étais dans les Vosges.
Dans les Vosges, pardon.
À côté d'Annecy. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai fait que la sortie du dimanche qui était suffisamment longue et intense. Après, je pense que j'ai bien géré cette sortie-là avec, on va dire, comme je m'étais accordé avec Romain, une bonne gestion d'effort en montée, même si au début, c'est un peu frustrant de se dire on est un petit peu lent, etc. Mais c'est important aussi de bien appréhender une très très longue sortie avec de la difficulté. Et sur la suite, moi, de l'entraînement, ça a été vu avec Romain, vu que je peux rester ce mois d'août en télétravail à la montagne jusqu'à la MCC. L'idée, c'est de faire un maximum de sorties en montagne, sur terrain vallonné, pour faire du volume et aller chercher de l'expérience sur ces sentiers.
Et tu vas pouvoir y aller crescendo, j'imagine.
Oui, mais bon, là, c'est... Moi, j'ai une semaine de... Enfin, il me reste que 4 semaines. Donc, cette semaine, je vais un petit peu récupérer. Je vais avoir de travail vraiment la semaine prochaine et un peu la semaine suivante. Mais ensuite, je serai déjà on va dire en affûtage avant l'événement. Donc, globalement, là, c'est emmagasiner de l'expérience. Et je pense qu'en termes d'intensité et de difficulté, j'ai passé le plus gros. Là.
Romain, comment on répartit ces séances, justement, quand on découvre la montagne? On en a parlé tout à l'heure. Là, sur les prochaines semaines, comment ça va se passer pour Damien?
Donc, en général, le gros de la prépa, il est entre 8 semaines et 3 semaines avant la course. Donc là, c'est un peu la fin de la prépa, ou en tout cas, tu as encore 2 bonnes semaines. Effectivement, c'est intéressant quand tu fais une course. En général, nous, ce qu'on recommande, c'est si tu veux être bien sur cette course-là, c'est de faire 3-4 jours avant un peu plus tranquille, puis 3-4 jours après encore aussi un peu tranquille pour bien récupérer. Parce que le but à ce moment-là, à 4 semaines, c'est pas de basculer en surfatigue. Et c'est vrai que là, il pourrait y avoir un piège, c'est que tu es à la montagne et tu te dis, tiens, j'ai du dénivelé. Allez, je vais courir tous les jours, je vais faire du dénivelé tous les jours. Et là, c'est vrai que tu basculerais peut-être dans un risque de surentraînement. Donc, faut bien suivre le plan qui a été fixé initialement. Alors, en plus, ça tombe bien parce que dans Run Motion Coach, tu peux choisir le nombre d'entraînements que tu souhaites et puis les terrains dont tu as à ta disposition. Et donc là, effectivement, pour Damien, c'est encore 2 semaines un petit peu intenses avant de basculer dans la phase d'affûtage.
Romain, toi, tu as fait l'Ultra 01.
Oui.
Donc, on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'était ça ton week-end choc. C'est là-dessus que tu l'as passé.
Oui, c'était exactement ça. La semaine d'avant, j'avais fait aussi un petit week-end à Tignes-Val d'Isère. Donc, c'était pas mal de dénivelé, peu de kilomètres, mais pas mal de dénivelé aussi. Et oui, l'objectif, c'était de faire ce week-end choc avec 65 km sur l'Ultra 01 le samedi, courir un petit peu aussi le dimanche et enchaîner avec la semaine pour aller au travail en courant, comme ça, c'était déjà prévu. Donc voilà, ça s'est passé comme il fallait, sauf les 20 premiers kilomètres qui ont été un peu écourtés. Mais du coup, j'ai pu faire un bon 150 km sur 6 jours. Donc c'était une première pour moi. Donc pas mal de volume, ce qui m'a plutôt rassuré pour la partie volume, temps de course et réussir à courir quand je suis fatigué, que j'ai plus les jambes, plus trop le moral, non pas le mental. Donc ça, c'était plutôt positif.
Et est-ce que justement tu as adapté du coup la semaine que tu avais prévue après l'Ultra 01, est-ce que comme tu as fait moins de kilomètres que prévu, tu as réadapté ta semaine?
Oui et non. Enfin oui, je l'ai réadapté, mais plutôt dans le sens où je devais courir tous les jours, 2 fois par jour pour aller et revenir au travail. Sauf que en fait le mercredi soir, j'étais vraiment sur les rotules, je me suis dit c'est pas possible de continuer comme
ça. Combien de kilomètres pour aller au boulot?
12. 12 allées, 12 retours, donc c'est pas énorme, mais finalement...
Ouais, mais bon, c'est tous les jours.
Voilà, au cumulé, ça fait beaucoup. Donc le jeudi, j'ai fait un break, où j'ai fait un peu de renforcement musculaire, mais pas de course. Et j'ai repris vendredi et samedi pour finir tranquillement.
Est-ce que vous avez justement un petit peu augmenté aussi ces séances de renforcement musculaire? On sait qu'elles sont importantes avant l'échéance.
Moi, je suis toujours à une par semaine, entre 20 et 40 minutes. J'essaie de m'y astreindre. J'aimerais bien faire 2, mais là, je pense que ça va être un peu tard de faire trop proche de l'événement. Donc non, une par semaine pour l'instant. Et depuis le début de la prépa, j'arrive à m'y tenir.
Laurent, toi, tu as pu aussi un petit peu embrayer sur le renforcement musculaire.
Oui, moi, je sais que c'était un de mes points d'attention. On en avait parlé dans les épisodes précédents, de cette faiblesse de mes fessiers, notamment, qui entraîne des petites douleurs et des risques un peu de TFL. Et donc, j'essaye, pareil que Romain, de faire au moins une séance par semaine et de coupler aussi à la fin de mes sorties maintenant quelques petits exercices dans la foulée ou avant pour faire une sorte de mini pré-fatigue. Et ça, je fais attention de bien m'y astreindre pour arriver en effet sans trop de faiblesse, ou en tout cas en réduisant ses faiblesses musculaires.
Ouais. Claire, toi, tu avais aussi des interrogations autour de ça, sur ton renforcement musculaire. Est-ce que tu as pu le débuter et est-ce que tu as compris comment adapter tes séances?
Alors, je ne suis pas une aussi bonne élève que Romain et Laurent. Non, j'avoue, je n'en fais pas. Ce n'est pas bien. J'en fais pas du tout. C'est pas même pas beaucoup, c'est que j'en fais pas du tout. Mais non, j'en fais pas. C'est joker là. J'avoue.
Est-ce que c'est grave, coach Romain?
Je mise tout sur le mental. Non, après je me sens pas.
C'est vrai quand même que je pourrais te recommander quand même quelques exercices, même si tu les fais pas tous, parce que
il faudrait
que en plus tu fais l'OCC
faire,
sans.
Exact.
Si t'as l'OCC sans bâton en plus, c'est quand même c'est quand même costaud. Donc c'est pas encore trop tard. On fera pas des miracles en 4 semaines, mais c'est vrai que si je vais te donner après quelques exercices de squat par exemple.
Pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas commencé le renforcement musculaire, tu leur conseilles quoi, Romain, à 4 semaines de l'échéance?
Y a déjà quelques exercices, mais plutôt renforcement des jambes. Donc je dirais squat normal sur 2 jambes, avec ou sans poids. Et après, il y a un exercice qui est vraiment super intéressant, en particulier pour ceux qui habitent loin des montagnes. C'est le squat sur une seule jambe. Donc, en gros, qu'est-ce que tu fais? Tu descends, tu te mets sur une chaise ou sur un canapé et tu descends très lentement, le plus lentement possible. Et quand tu touches le canapé ou la chaise, tu remontes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant parce que c'est des amplitudes qu'on va rarement trouver quand on est sur des courses à plat. Et ça permet de vraiment bien guider le genou et de renforcer toute la chaîne postérieure et les cuisses. Et ça, c'est vraiment, en termes de stabilité et de développement de la force, c'est super intéressant. Donc, squat 2 jambes et squat 1 jambe, je recommande.
De quoi bien brûler les cuisses, quoi.
Exactement. <voilà.
rire> autre question avant qu'on passe à la séance du jour. Est-ce que vous avez pu commencer à tester la nutrition sur vos entraînements? Damien, est-ce que tu as pu en tester, notamment sur la course que tu as fait le week-end passé?
Alors oui, ça c'était aussi un pôle d'apprentissage de mon été assez court sur tous ces aspects du trail. Ouais, en fait, Romain m'avait conseillé de prendre, je ne sais plus si c'était Romain, oui, je crois que c'était ça, on avait discuté des purées salées.
Ok.
Sur trail ouais, j'ai pu tester une purée au petit pois.
Ok.
lors de mon trail d'hier et en vrai ça m'a vraiment fait du bien de manger du salé parce que d'habitude je mangeais que des gels, des gommes ou du sucré. Donc le fait d'allier les deux, c'est-à-dire mes flasques avec de la boisson d'effort, des gels, et aussi au milieu de ça, de prendre un peu de salé, ça m'a quand même fait du bien. Et j'ai senti de la fatigue beaucoup plus tard que pendant mon trail du Saint-Jacques que j'avais fait mi-juin. Donc, c'est assez intéressant. Après, voilà, faut que je continue à tester. Voilà, j'ai aussi pris des saucissons, ravito, enfin voilà, toutes ces choses-là que je faisais pas forcément avant. Maintenant, j'ai un peu plus envie de saler et je vois aussi les bénéfices.
Sympa le saucisson au ravito.
C'est bien d'être en montagne.
Voilà.
Romain, toi, tu connaissais déjà les longues distances comme ça. Est-ce que tu as pu retester certaines choses que tu n'avais pas l'habitude d'utiliser ou est-ce que tu es resté sur ce que tu connaissais sur la nutrition?
Ouais, moi je suis resté sur ce que je savais faire. Ça fait 4-5 mois que je tourne avec les mêmes produits, salés, sucrés, boissons solides. Enfin, ouais. C'est assez calé de ce côté-là. La seule chose, c'est qu'il faut que j'arrive à trouver, mais je pense que ça sera peut-être avec le saucisson, sur les ravitaux, trouver des apports en protéines un peu plus importants,
ouais.
Surtout pour la fin de course.
C'est la
pour
difficulté.
Éviter. Voilà. Mais sinon, le reste, c'est calé.
Comment on peut faire, Romain Adam, pour avoir cet apport de protéines, justement, quand on se nourrit sur une course si longue?
C'est une très bonne question. L'apport de protéines, il n'est pas forcément simple à avoir en course. Effectivement, il y a le saucisson, mais je ne suis pas sûr que ça soit de la viande d'excellente qualité. il peut y avoir le fromage aussi. Et puis, il y a certaines boissons qui apportent ce qu'on appelle les BCA. Donc, c'est, en gros, c'est des acides aminés qui sont facilement digérables. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir en fait, des apports aussi en nutrition un peu complémentaires à ce qu'on pourrait avoir sur un ravito. Et c'est vrai qu'on voit aussi pas mal le développement de boissons de type électrolyte. Donc électrolyte, c'est, pour faire simple, c'est du sodium, donc du sel, du calcium et du potassium. Et c'est vrai que ça s'est quand même beaucoup développé ces 3-4 dernières années, ce type de boissons. Et donc, moi, je le recommanderais, en tout cas, entre les ravitaillements, de pouvoir aussi avoir une boisson d'effort qu'on va consommer. En gros, moitié boisson d'effort et puis moitié eau plate. En général, ça, c'est suffisant.
Ok. Toi, Laurent, aussi, qui a l'habitude de faire des trails longue distance, comment tu gères cette nutrition pendant les courses et cet apport en protéines?
Alors, l'apport en protéines, pareil, j'avoue que je ne me suis pas trop posé la question et je pense qu'il est faible. Par contre, j'ai quelques habitudes maintenant et quelques habitudes que j'ai mises en place, notamment l'alternance, moi, qui marche bien, c'est d'alterner le sucré et le salé par ravito. C'est-à-dire qu'un ravito, je vais me concentrer plutôt sur du salé et le ravito suivant sur du sucré, avec aussi sur moi, j'ai deux flasques toujours, une avec de la boisson d'effort et une avec de l'eau plate classique. Et ça marche plutôt bien. Ouais. Et puis sur moi, j'ai quelques compotes, moi, qui marchent bien. Et en début de course ou première partie de course, du solide, que j'arrive encore à bien prendre, des barres ou autres, qui passent un peu moins bien ou plus difficilement par la suite quand on a du mal à mâcher ou à ingérer du solide, où je passe plutôt sur des compotes. Donc voilà, j'ai trouvé un équilibre que j'ai...
Je pense que le corps, il est bien fait aussi quand tu as besoin de salé, c'est qu'en général, tu as besoin de sel. Et puis quand tu as envie de te jeter sur je sais pas, du chocolat ou des conneries sucrées, c'est qu'en général, tu as besoin d'un peu plus de glucides. Ouais. Donc ouais, il faut écouter son corps. Comme tu dis, c'est bien d'alterner entre les deux. Puis si sur un ravitaillement, tu sens vraiment que tu veux du salé alors que tu avais prévu plutôt du sucré, dans ce cas-là, tu peux changer et écouter ton corps.
Très bien, ce sont d'excellents conseils, merci messieurs. Bon, maintenant que les bilans de la semaine sont faits, on va passer à la séance du jour.
RMC, la séance.
Romain, tu voulais consacrer cette séance aux côtes, avec notamment deux séances possibles en fonction du parcours dont on dispose, parce que c'est vrai qu'on a des auditeurs qui sont dans les montagnes, mais on en a d'autres qui sont sur du plat. Donc, tu voulais consacrer ces séances aux côtes et expliquer comment on fait quand on a du dénivelé ou quand on n'en a pas.
Exactement. Donc, on va démarrer par peut-être la séance qui nécessite le moins de côtes. Donc, c'est 10 fois 30 secondes, récup 1 minute. Donc, ça, c'est une séance de côtes que des coureurs sur route pourraient aussi faire pour l'explosivité. Mais c'est intéressant quand on fait du trail pour pouvoir relancer quand il y a des côtes qui sont plutôt courtes pendant sa course. Ça travaille l'explosivité, ça travaille la force musculaire. Et donc ça, c'est une séance. Donc pour faire simple, tu prends une côte, peu importe le pourcentage, mais idéalement entre 8 et 15%. Alors 15%, on n'a pas toujours accès à ce type de côte, mais idéalement, il faut être entre ces 8 et 15%. Et donc on monte, on fait les 30 secondes pratiquement à fond, et puis on redescend sur la récup en trottinant, et on repart. Et qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on a réussi la séance, c'est qu'on arrive tout le temps au même point. Donc on part au point A et jusqu'au point B. Et si on a bien géré, on arrive normalement à peu près au même point sans difficulté. Donc voilà, ça c'est la séance de côte courte. Et puis je voulais proposer aussi une séance de côte longue, donc pour ceux qui ont accès à de la montagne, puisque finalement, quand on prépare du trail en montagne, on est quand même obligé d'aller trouver du dénivelé à un moment donné de sa préparation. Je pense que c'est illusoire de vouloir préparer un trail de montagne et ne jamais se confronter à ce type de distance. Et donc la séance que je propose, c'est 2 fois 25 minutes avec 15 minutes de récupération en descendant. Et donc ça permet de travailler l'endurance de force. Donc c'est, pour faire simple, la capacité à monter vite ou en tout cas à monter à son allure le plus longtemps possible. Et donc ça vient simuler de longues montées qu'on pourrait trouver. Par exemple, sur un UTMB, on a assez régulièrement des côtes de 700 ou 800 mètres de dénivelé positif. Et donc le fait de faire ces séances vient améliorer l'endurance de force, travailler le cardio et cette capacité à tenir une allure régulière dans la montée. Donc voilà pour ces deux types de séances de côtes.
À quoi ressemblent vos séances de côte, Romain ? Toi, à quoi ça ressemble en ce moment dans ta préparation, les séances de côte ? Ça ressemble à ce que Romain Adam vient de nous expliquer ?
Alors moi, j'ai pas la chance d'être à la montagne en ce
moment. Donc toi, c'est plutôt les séances courtes ?
Donc c'est plutôt les séances courtes. La première que Romain a évoquée, les 10 fois 30 secondes. D'ailleurs, je crois que je l'ai cette semaine dans mon programme. Et j'alterne aussi avec un truc un petit peu plus perso, entre guillemets, enfin, que nous, on a mis en place avec ma femme à côté de la maison. On a un mur, on va dire,
okay,
qui fait 50 mètres de dénivelé et en fait, on le fait 10, 20, 30 fois.
Okay.
Donc là, on ne court pas parce qu'on ne peut pas, on a les bâtons et on essaye de le faire un maximum de fois pour faire le plus de dénivelé possible. Mais c'est un truc que je fais en complément, effectivement, des séances un peu plus rapides, comme Romain l'a dit, de 10 fois 30 ou 40 secondes. Mais par contre, les 2 fois 25 minutes, ça, je les ai pas à côté de la maison.
Toi, Damien, tu as pu les faire ou tu vas les faire peut-être ces séances plus longues dans ton programme, vu que tu es en altitude.
Alors oui, à Paris, moi, je faisais les séances courtes et d'ailleurs, ça fonctionnait assez bien. En tout cas pour démarrer. Maintenant que je suis à la montagne, moi en fait, vu que la MCC c'est d'entrer une première montée sans s'arrêter de 1800 mètres,
ouais.
Donc pour l'instant les séances que j'ai faites en montée c'était de partir d'un point A et de monter jusqu'à un maximum, je crois que j'avais fait du 600 ou 700 et après de redescendre pour m'entraîner vraiment à avoir des montées plus ou moins longues. Mais voilà, mais c'est vrai que ce genre de séance que propose Romain, corrige-moi si je me trompe, mais c'est bien aussi d'alterner et de faire aussi des montées de 25 minutes un peu plus rapides pour pouvoir s'exercer là-dessus aussi.
Exactement. Exactement, en fait, c'est intéressant. Par exemple, même si tu faisais une rando-course, par exemple, tu fais une rando-course de 4 heures, tu peux aussi te dire, tiens, pendant deux montées, alors pas forcément deux montées d'affilée, mais tu peux dire à deux moments, tiens, je vais faire cette montée-là un peu plus vite. Alors évidemment, tu ne la fais pas comme si tu avais juste cette montée-là à faire, mais tu la gères. Mais tu peux faire une accélération et te dire, tiens, comme ça me permet de monter un peu plus en cardio, de tirer un peu plus dans les jambes. Et ça peut être un complément, par exemple, quand tu n'as pas accès facilement à la montagne, mais que tu vas faire un week-end choc. Tu vas plutôt enchaîner deux jours un peu importants le samedi et le dimanche. Dans ce cas-là, tu peux simuler aussi ce type de séance à l'intérieur d'une rando-course.
Claire, toi qui es dans le sud en ce moment, tu as pu aller chercher aussi un peu de dénivelé, on l'a raconté. Justement, tes séances, toi, elles s'articulent comment en ce moment sur les côtes ?
Ben ça, ce que Romain a tant dit, les deux fois 25 minutes, me fait vraiment penser à la sortie longue que j'ai pu faire ce week-end. C'était vraiment ça, en fait. J'avais des côtes qui étaient très longues, entre 25 et 30 minutes. Et du coup, avec des descentes qui duraient, voilà, c'était un quart d'heure. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et voilà, physiquement, ça challenge un peu. Et ça, effectivement, comme j'étais sur des boucles, ben, je pouvais me dire, tiens, je l'ai faite en tant de temps sur la première boucle, donc je vais essayer d'accélérer un peu sur la deuxième. Et pareil en descente. Et c'est vraiment... je trouve que c'est intéressant autant pour le cardio que musculairement aussi, de voir comment on est capable de relancer autant en montée qu'en descente et sur les quelques parcelles de plat. Donc, je pense que c'est des séances qui sont importantes et bénéfiques pour se mettre sur les conditions les plus réelles, entre guillemets, de la course. C'est pas, encore... exactement. Ouais. Donc, je pense que c'est bien de le faire avant,
Toi, Laurent, en Normandie, tu as plutôt opté pour quel type de séance ? Plutôt courte ou plutôt longue ? Ou peut-être un peu les deux, d'ailleurs ? Parce que tu peux aller chercher quand même un petit peu de côte un peu plus longue qu'en région parisienne.
Oui, exactement. J'ai plutôt l'habitude, côté région parisienne, des séances courtes. J'ai une rue. Et comme disait Romain, moi, je fais attention à chaque fois à terminer la répétition de la côte au même endroit que la fois précédente pour m'assurer de rester dans le même rythme. Et là, en Normandie, j'ai fait un mix un peu des deux. J'ai une rue plutôt courte pour faire du court, et puis j'ai trouvé un segment, alors qui ne fait pas 25 minutes, mais qui fait une bonne dizaine de minutes. Et donc là, je me suis concentré plutôt à garder du rythme. Là aussi, comme disait Romain, de s'attacher à monter avec une bonne allure, en tout cas sa bonne allure. Et donc, pareil, je regardais ma montre arriver en haut pour m'assurer que je restais à peu près dans les mêmes chronos, 10-12 minutes de montée un peu intense. Et puis, je redescendais. Donc, il y a un petit côté hamster, mais ça permet de cumuler un bon millier de D+ en pas trop de temps. Donc, c'était un bon compromis.
Romain, combien de séances de côte on va mettre dans la semaine de préparation ? Là, on est à un mois de l'échéance, un petit peu moins d'un mois. Combien de séances de côte on va mettre dans la semaine ? Est-ce qu'il faut qu'elle soit à chaque séance ou pas ?
Non, pas forcément à chaque séance. Tout simplement parce que peu de monde ont quand même accès à des côtes de façon très répétée. Dans un format idéal, il faudrait une rando-course dans la semaine, une séance de côte longue dans la semaine, et possiblement une petite séance de côte courte, type 10 fois 30 secondes. Ça, c'est déjà... Franchement, si on a déjà accès à ça, c'est déjà très, très bien. Et après, ce qu'on pourrait rajouter en plus, c'est quand on fait un footing, par exemple d'une heure, c'est de viser un footing avec quelque chose d'un peu vallonné. Alors, pas trop en montée, où on a forcément besoin de sortir les bâtons et de marcher, mais plutôt un terrain avec des côtes moyennes. Et ça permet d'avoir une alternance. Et si on fait ça, on arrive déjà à un très bon niveau de dénivelé positif dans la semaine. Et pour la plupart des coureurs et pour la plupart des distances, c'est suffisant. Oui.
Est-ce que c'est OK de faire les deux séances de côte d'un coup, dans une seule séance, ou c'est déconseillé ?
Non, ça par contre, c'est pas très conseillé. Par contre, ce qu'on pourrait quand même imaginer, c'est, on le propose depuis peu dans l'application, c'est par exemple de faire 10 fois 30 secondes de côte et après d'enchaîner par une côte de 10 minutes. Mais en tout cas, il faut pas faire deux séances en une. C'est plutôt raccourcir un peu la partie côte courte et raccourcir un peu la partie côte longue. Mais on peut viser ce mix des séances, c'est jouable.
Très bien. Est-ce que vous avez des questions concernant les côtes, ou est-ce que vous avez d'autres questions à passer aux questions, alors normalement aux questions auditeurs, mais cette fois-ci, ce seront vous les auditeurs. Romain, est-ce que tu avais des questions à poser à notre coach ?
Moi, j'ai une question sur, alors on n'y est pas encore, hein, c'est dans 4 semaines, mais sur la dernière sortie. Est-ce qu'il faut la faire le matin de la course ? Est-ce qu'il faut le faire la veille de J-2, J-3 ? Qu'est-ce qui est le plus judicieux, qu'est-ce qui est recommandé ?
En général, la veille de course, comme son nom l'indique, c'est plutôt la veille de course ou l'avant-veille. Mais là, c'est vraiment quelque chose de très léger. C'est 15-20 minutes sur un terrain tout petit peu vallonné, histoire de réhabituer un petit peu le corps à une certaine flexion des tendons ou des mollets, par exemple. Mais vraiment quelque chose de très léger. Et moi, je ne le ferai pas le matin, parce que sinon, tu mets en éveil ton corps un peu trop tôt dans la matinée ou dans la journée, alors que toi, ta TDS, elle est à minuit, je crois. Je ne vois pas trop l'intérêt de le faire le matin. Okay. Je recommanderais plutôt de le faire en fin de journée la veille, parce que tu vas te mettre en éveil le soir. Donc, il vaut plutôt viser une veille de course le soir vers 18h, je pense. C'est ce qui sera le plus logique par rapport à ton rythme biologique et ta course qui aura lieu le lendemain à minuit.
Ok, super.
Claire, est-ce que tu avais une question pour Romain ?
Moi, j'ai une question plus par rapport au rythme de relance, en fait, parce que donc, moi, je marche en fait dans les montées tout le temps, et le reste du temps, du coup, je me dis que je dois tout le temps courir. Et est-ce que il n'y a pas une règle, ou il y a des fois où je me dis, bon, en descente ou même sur le plat, il y a des moments où je me dis, bah tiens, là, je sens que j'ai les genoux qui sont un peu raides. Donc, je vais me dire, je marche 2 minutes et je repars. Mais parfois, je me dis, ah, je ne devrais pas marcher 2 minutes, parce qu'à partir du moment où je dois courir, où je peux courir, il faut que je cours. Mais est-ce qu'il n'y a pas une règle et un bon équilibre de me dire, bah, c'est quoi ? Est-ce qu'après une grosse montée, je peux me prendre encore 2-3 minutes pour me permettre de relancer ? Parce que moi, j'ai un peu de mal à relancer parfois. Je prends un peu plus de temps. Et voilà, c'est quoi le bon tempo à avoir par rapport à ça ? Pour la relance,
Je dirais que ça dépend du parcours. Mmh. Typiquement, sur l'OCC, donc tu as une première montée qui est raide jusqu'à Champey. Après, à Champey, c'est intéressant parce que là, tu as au moins 2 km où tu peux courir. Après, ça remonte un petit peu, mais je pense que tu peux courir quand même un petit moment là, pendant 4-5 km. Donc moi, ce que je recommande quand on a envie de courir sur une portion juste après une montée, c'est en gros les 4-5 dernières minutes en fin de montée, c'est de réduire un peu la cadence pour faire redescendre un petit peu le cardio et que ça soit vraiment facile. Ça veut dire qu'au moment où tu bascules sur la partie plate, tu sois en capacité de relancer et de courir. Parce qu'effectivement, là où tu vas gagner le plus de temps par rapport à la marche, c'est sur ces portions plates où tu vas pouvoir courir à 8-9 km/h. Et donc, il vaut mieux être en capacité de le faire à ce moment-là, donc de ralentir un petit peu avant. Et après, c'est OK si, par exemple, tu sais que tu as une période de 4-5 km où tu vas pouvoir courir, de fractionner cette période de course en disant, bah, tiens, je vais faire 1 km où je cours et puis je vais faire 100 mètres où je marche, ou comme tu disais, 1 minute ou 2 minutes de marche. Je pense que c'est intéressant. Et le but, surtout sur des épreuves comme ça, c'est de se préserver musculairement. Donc, si tu sens que tu charges un peu trop au niveau des cuisses, il faut mieux marcher. Il vaut mieux marcher, pardon. Et donc, en fonction de ton ressenti, et puis que ça soit au niveau musculaire, si tu sens que tu charges trop, ou au niveau du cardio, si tu sens que le cardio monte un peu trop, n'hésite pas à marcher. Ça vaut mieux pour mieux repartir derrière.
Laurent,
ok, super, merci.
Laurent, est-ce que tu avais une question toi aussi ?
Oui, j'avais une question pour Romain à un mois maintenant de cette échéance qui arrive, sur l'optimisation en fait de la semaine ou des 10 jours à venir. Comme je disais, j'ai pas mal de contraintes, on va dire, de logistique et d'optimisation de mon temps lié aux vacances familiales. Comment tu me conseillerais d'optimiser, tu vois, mes sorties, sachant que je peux du coup pas en faire énormément. Est-ce que tu me conseilles encore à un mois de pouvoir faire du long, voire tu vois, une grosse rando course ? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse plus court, mais avec de l'intensité ? Voilà, un peu trouver le meilleur équilibre, organisation et temps de sortie.
Ce qui va te prendre le plus de temps, j'imagine que c'est la rando course, mais si tu peux quand même en caser une dans la semaine, ce sera déjà bien. Et après, tu peux viser plutôt des séances d'intensité, soit des côtes longues, je ne sais pas, par exemple, 3 fois 10 minutes ou 5 fois 6 minutes, par exemple. Tu peux viser ça. Je pense que c'est intéressant de mixer les deux. Mais en tout cas, c'est vraiment maintenant qu'il faut courir, donc ce serait dommage de ne rien faire. Après, ce que tu peux aussi faire, c'est, par exemple, je sais pas, chaque matin ou tous les deux matins, c'est de faire une séance de renforcement musculaire. Comme ça, ça va t'apporter un peu de pré-fatigue avant tes séances. Et puis, globalement, c'est quelque chose que tu peux faire à la maison ou sur ton lieu de vacances. Et donc là, normalement, tu devrais pas t'absenter trop longtemps. Et donc, c'est aussi un moyen d'optimiser son temps, d'ajouter le renforcement musculaire le matin avant que la famille se réveille, par exemple.
Oui. Super, merci.
Ça dépend de l'heure à laquelle les enfants se lèvent. Ça peut être très tôt, cette histoire. Damien, pour conclure, est-ce que toi, tu avais des questions également ?
Alors oui, moi j'ai une question qui m'est, qui une situation qui m'est arrivée hier. C'est une question plutôt matérielle pour toi, Romain. En fait, je me suis rendu compte que sur les terrains un peu plus techniques en termes de montée et de descente, je glissais un petit peu dans mes chaussures et c'était pas ultra confortable. Donc, est-ce que tu avais des astuces par rapport à ça, alors que ben, globalement, enfin, mes chaussures, ma pointure me va très bien sur, enfin, quand je cours, c'est parfait, mais dès que ça devient un petit peu trop technique, je glisse un peu dans ma chaussure, donc voilà.
C'est une bonne question. Là, comme ça, faudrait qu'on regarde. Peut-être que. Peut-être, alors, déjà, c'est bien si elle est à ta taille. Peut-être qu'il faut regarder. Alors, en général, il ne faut pas trop serrer les chaussures de trail parce que sinon, ben, non, ça peut te couper un peu la circulation. Mais il faudrait regarder comment tu les as lacées. Est-ce qu'au niveau du coup de pied, vraiment au bout, est-ce que tu t'as suffisamment serré ou pas? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut quand même pas mal serrer au bout et plutôt moins serrer au niveau de la cheville. Mais voilà, c'est peut-être des choses que tu peux regarder. Après, c'est pas forcément trop problématique si enfin, si ton pied il bouge dans la chaussure. Le seul inconvénient qu'il peut y avoir, c'est potentiellement ça peut t'occasionner des ongles noirs. Et donc là, je sais qu'il y a des petits capuchons pour mettre sur le gros orteil, par exemple, qui peuvent éviter d'avoir des ongles noirs. Parce que si, ouais, c'est souvent sur les très longues épreuves, souvent c'est le gros orteil ou les orteils en général qui prennent le plus. Et c'est peut-être ça le plus embêtant si ton pied bouge dans la chaussure.
Ok, je peux peut-être essayer des chaussettes plus épaisses ou choses comme ça, ou ça vaut pas forcément le coup.
Si, ça peut aussi. Clairement, la chaussette, c'est intéressant. Après aussi, c'est intéressant de bien préparer son pied, donc mettre de la crème hydratante, puisque plutôt un pied qui sera en forme et au niveau de la peau, normalement, moins tu auras de frottement. Donc, oui, regarde aussi au niveau des chaussettes. Tu pourras peut-être m'envoyer le modèle de tes chaussettes. Comme ça, on pourra regarder s'il y a des choses à améliorer à ce niveau-là.
Ça marche.
Super. Eh bien, merci tout le monde d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous dans quelques semaines pour un prochain épisode sur notre série UTMB. N'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs si ce n'est déjà fait et de nous mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous est toujours d'une grande aide. Merci tout le monde. C'était un super épisode à faire avec vous tous. À très bientôt. Ciao.
RMC Running.